Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dieu pardonne toujours, les personnes pardonnent quelquefois, mais la création ne pardonnera jamais si tu ne la protèges pas. C'est l'avertissement lancé par le pape François à l'audience générale. Le pape François qui se prépare à effectuer un pèlerinage en Terre Sainte sous le signe de l'œcuménisme. Vous entendrez la voix de Paul VI dans ce magazine. C'est le pire exode depuis la guerre intercommunautaire des années 1990. Plus de 100 000 Bosniaques évacués, 30 000 en Serbie, 15 000 en Croatie. À la suite d'inondations historiques, le Saint-Père a lancé un appel à la solidarité concrète de toute la communauté internationale. Au Nigeria, un nouvel attentat ravive la crainte de violences interreligieuses avec leur cycle infernal de représailles qui ont déjà ensanglanté l'État du Plateau et sa capitale Jos. Le président de la conférence épiscopale a exprimé sa profonde tristesse. Le pape François a une fois encore tourné ses pensées ce mercredi vers les sinistrés de Bosnie-Herzégovine et de Serbie. Ces deux pays des Balkans ont été gravement touchés par des intempéries qui ont fait des morts et des déplacés et causé de lourds dégâts. Le Saint-Père avait déjà lancé un appel dimanche à l'Angélus. Depuis, la situation s'est encore aggravée. Les Balkans restent en alerte face à des rivières en crue et au risque d'épidémie. En Bosnie, un quart des habitants sont privés d'eau potable. Devant les quelques 70 000 personnes venues assister à l'audience générale ce mercredi, le pape François a demandé aux fidèles de prier pour toutes les personnes touchées par cette catastrophe et lancé un appel à la solidarité internationale. Et à l'approche de la journée annuelle de prière pour l'Église de Chine le 24 mai, le souverain pontife a par ailleurs demandé aux fidèles de prier pour que les catholiques de Chine continuent à croire, espérer et aimer et soient en toutes circonstances fervents d'une convivialité harmonieuse entre leurs concitoyens. Auparavant, le souverain pontife avait invité les catholiques à contempler souvent la beauté de la création afin d'y découvrir la grandeur et l'amour de Dieu pour nous et d'accueillir sa volonté dans leur vie. Cyprien Viette.
Une catéchèse consacrée aux dons de science, un des dons du Saint-Esprit. L'occasion pour le pape François de rappeler que nous ne sommes pas les propriétaires de la création, que nous devons prendre soin d'elle pour le bien de tous. Si nous détruisons la création, la nature nous détruira, avertit sans détour le Saint-Père. Quand on parle de science, on pense spontanément à la capacité humaine de connaître toujours mieux la réalité qui l'entoure et de découvrir les lois qui régissent la nature de l'univers. Mais le don de science qui vient du Saint-Esprit ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don spécial qui nous porte à saisir à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu, sa relation intime avec toute créature. La beauté de la nature et la grandeur du cosmos suscitent en nous un profond sentiment de reconnaissance. Le don de science nous met en harmonie avec le Créateur et nous fait participer à la clarté de son regard et de sa volonté sur le monde et sur les hommes. La beauté de l'univers est pour le chrétien un motif de sérénité et de paix et en fait un témoin joyeux. L'homme et la femme sont au sommet de la création, a-t-il encore noté. Ils ne sont cependant pas les maîtres mais les gardiens de la création. Le Saint-Père a invité les fidèles à percevoir les limites des personnes et des choses qui les entourent. Elles ne sont pas un absolu mais elles doivent nous orienter vers Dieu et nous aider à le rencontrer. Les créatures ne peuvent pas répondre à toutes nos attentes.
Parmi les fidèles francophones, il y avait ce mercredi sur la place Saint-Pierre des pèlerins des diocèses de Pointe-Noire au Congo, de Sens et de Fréjus en France, ainsi que les sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. À la fin de l'audience générale, le pape François a demandé aux fidèles d'accompagner de leurs prières le pèlerinage en Terre Sainte qu'il entamera samedi. Un voyage qui sera strictement religieux, a-t-il insisté. D'abord pour une rencontre avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos. Le deuxième motif du voyage est de prier pour la paix dans cette terre qui souffre tant, a-t-il ajouté. Le pape François a choisi le 50e anniversaire de la rencontre historique du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras à Jérusalem pour relancer l'élan œcuménique. Je vous propose d'écouter un extrait de la prière récitée par Paul VI au Saint-Sépulcre le 4 janvier 1964.
Seigneur Jésus, notre rédempteur et notre pasteur, mettons-nous la capacité d'aimer comme tu veux que, à ton exemple, avec ta grâce, nous t'aimions, ainsi que tous ceux qui sont nos frères en toi. Seigneur Jésus, notre Rédempteur et notre paix, qui nous a fait connaître ton suprême désir que tous soient un, exauce ce désir que nous faisons nôtre et qui est devenu ici notre prière, que nous tous soyons un.
Le pape Paul VI au Saint-Sépulcre en janvier 1964, au cours de son voyage en Terre Sainte, un voyage marqué par ses retrouvailles historiques avec le patriarche de Constantinople, Athénagoras. Et nous vous proposons justement aujourd'hui de revenir à cette accolade de 1964 en compagnie d'un spécialiste de la spiritualité orientale, Sabino Chiala, moine de la communauté de Bozé en Italie, fondée par Enzo Bianchi et dont font partie des hommes et des femmes de différentes églises chrétiennes.
Je dirais que pour l'Église, sûrement, cela a signifié une sorte d'inauguration d'une époque nouvelle, c'est-à-dire une époque qu'on peut appeler de retrouvailles entre frères et entre Églises, sœurs, qui ne se rencontraient plus depuis des siècles. Et pour le monde, je pense que ça a signifié quand même une image de réconciliation, c'est-à-dire bien que ce qui n'était pas vraiment dans les affaires de l'Église ne pouvait pas vraiment comprendre l'importance de tout cela, tout de même dans cette accolade que nous avons vue plusieurs fois représentée iconographiquement dans les photos de l'époque, nous avons pu voir que là, il y avait vraiment quelque chose d'important, de pacification, de retrouvailles justement, qui se passait, et donc quelque chose de nouveau qui pouvait commencer et qui en fait venait de commencer.
Que peut apporter le message du pape François au dialogue avec le monde orthodoxe?
Et moi je dirais qu'avant tout c'est une nouvelle confiance, c'est-à-dire une confiance renouvelée. Nous savons que dans n'importe quel genre de dialogue, et dans le dialogue œcuménique en particulier, ce qu'il y a vraiment d'important de gagner, c'est la confiance de l'autre. Alors, plusieurs fois, on n'a pas eu le courage et on n'a pas eu la capacité de se rencontrer vraiment et d'atteindre à des résultats concrets, justement parce que cet élément si important n'a pas été vraiment accueilli et cultivé. Je pense que ce pape, c'est vraiment un pape qui est capable de gagner la confiance de l'autre. Et je trouve que le monde orthodoxe va bien saisir cela et va bien l'apprécier.
Y a-t-il un discours ou une action de la part du pape François envers l'orthodoxie qui a particulièrement retenu votre attention?
Et moi, j'ai encore dans les yeux cette mémorable rencontre qu'il y a eu entre le pape François et le patriarche Bartholomée à Rome à l'occasion du début de l'inauguration du ministère du pape François, quand les deux se sont rencontrés, les deux se sont regardés dans les yeux, comme selon une expression qu'aimait beaucoup le patriarche Athénagoras. Et j'ai encore dans les oreilles cette salutation que le pape a adressée au patriarche en l'appelant « mon frère André ». Donc vraiment un geste et une parole qui a une signification grande. Et comme pour l'orthodoxie, nous savons que les gestes sont autant importants que les paroles, je trouve que dans cette image, nous avons vraiment, encore une fois, une image mémorable qui marque un temps nouveau et qui marque aussi et qui fait espérer dans quelque chose de nouveau qui va naître dans les prochaines décennies ou dans les prochaines années, peut-être.
Quelle perception a de François le monde de l'orthodoxie si complexe et diversifié?
Mais peut-être que c'est encore un peu trop tôt pour en juger, dans le sens que, oui, effectivement, au niveau les plus hauts, on peut déjà compter quelques rencontres. Mais au niveau plus populaire, je dirais, au niveau des gens d'église, du peuple de Dieu, disons qu'il n'y a pas encore suffisamment d'expérience de rencontre. Et cette rencontre entre le pape et le patriarche à Jérusalem, je trouve que sera le premier moment où on pourra mesurer quel est l'impact de cette figure, c'est-à-dire du pape François, chez nos frères des églises orthodoxes.
Y a-t-il des éléments de nouveauté dans cette nouvelle rencontre? S'agit-il simplement d'une commémoration?
Absolument non. C'est-à-dire, ça c'est évidemment le point de départ, et c'est bien de se rappeler de ce qui a été, parce que c'est des dons de Dieu dont nous avons aussi la responsabilité de la garde, de la mémoire. Mais je dirais qu'il y a du nouveau. Il y a 50 ans dans lesquels, même si de temps en temps, on se plaint que le progrès dans le dialogue œcuménique n'est pas ce qu'on aurait espéré. Il y a 50 ans où on a fait des choses, on a fait des pas, et je ne serai pas, on n'a pas le temps maintenant de tout rappeler, mais je dirais que tout cela peut-être qui est très bien exprimé par une image que nous aurons sous les yeux dans une semaine, c'est-à-dire le fait que à l'époque, il y a 50 ans, le patriarche et le pape se rencontraient dans ce qui est la résidence de la délégation apostolique à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire dans un endroit qui est seulement une représentance diplomatique. Cette fois-ci, le pape et le patriarche se rencontreront au centre même, symbolique aussi, de la chrétienté, c'est-à-dire devant le Saint-Sépulcre, et ils prieront ensemble devant le Saint-Sépulcre. Ça, c'est un fait absolument nouveau, qu'il y ait une prière œcuménique dans le Saint-Sépulcre, et à ce haut niveau, c'est-à-dire entre le pape, le patriarche et les chefs des autres églises de Jérusalem. Donc ce changement de lieu, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important et qui dit qu'on fait une commémoration, mais en même temps on rend grâce pour ce qui a été, mais en même temps on peut mesurer le chemin qu'on a fait.
Sabino Chiella de la communauté monastique de Bozé, interrogé par Gabriele Palaciano. Je vous rappelle que le pèlerinage du pape François est placé sous la devise « qu'il soit temps » et le logo représente Saint-Pierre, chef de l'église de Rome, et Saint-André, chef de l'église de Constantinople, sur une barque dont la voile est tenue par une seule croix. En Terre Sainte, le pape François rencontrera aussi la communauté catholique composée d'Arabes, Palestiniens, mais aussi d'immigrés philippins, Sri-Lankais et Indiens. Ils espèrent pouvoir aller dimanche à la messe de Bethléem. Des bus seront affrétés depuis Tel Aviv. Le nombre des travailleurs immigrés catholiques en Israël a plus que doublé depuis les années 1990. Ce sont en grande majorité des femmes vivant principalement à Tel Aviv, la capitale économique. Il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de clandestins venus d'Érythrée et du Soudan du Sud, la plupart chrétiens, surtout orthodoxes. Au Canada, le Bureau de la liberté de religion a été fondé en 2013. Cette structure, attachée au ministère des Affaires étrangères, est dirigée par l'ambassadeur itinérant Andrew Bennett. Sa mission, assurer la promotion de la liberté de croyance ou de religion en tant qu'élément prioritaire de la politique étrangère du Canada. Ce pays veut devenir la voix de ceux qui sont persécutés dans le monde. Il n'entend pas rester silencieux devant l'intolérance religieuse qui se répand de plus en plus dans le monde, comme en Chine, en Iran, au Pakistan. Andrew Bennett vient d'effectuer une visite au Vatican du 16 au 20 mai. Objectif, discuter avec des membres de la Curie des possibilités de collaboration pour promouvoir la liberté religieuse dans les pays où cet organisme a des liens.
L'objectif de mon voyage ici au Vatican est de discuter avec les différents membres du Curia, les différentes congrégations, de discuter notre mandat et de chercher et de découvrir les opportunités d'un vrai partenariat avec l'Église et le Saint-Siège, parce que le Saint-Siège et l'Église sont directement dans le monde pour promouvoir et défendre la liberté religieuse. Donc nous avons un lien entre notre mandat et le rôle du gouvernement canadien et le rôle et la place de l'Église dans le monde. Nous trouvons beaucoup d'opportunités pour travailler ensemble dans le sens de promouvoir un dialogue, mais aussi de trouver les opportunités pour les actions directes pour assister les gens qui sont persécutés.
De quoi avez-vous parlé avec le cardinal Sandri?
J'ai parlé avec le cardinal Sandri sur la question des persécutions des chrétiens dans le Moyen-Orient, la situation en Syrie et les différents pays, et aussi la situation en Ukraine. Pour notre gouvernement, la situation en Ukraine est très importante parce que nous sommes en train de promouvoir avec le gouvernement ukrainien une vraie transition démocratique où la liberté de religion sera respectée, où il y aura une vraie normalisation des relations entre l'État et les différentes églises et communautés ecclésiales en Ukraine.
Et selon vous, après cette discussion, est-ce que la possibilité existe de cette collaboration entre le gouvernement canadien et le Saint-Siège?
Oui, j'espère vraiment. Notre relation existe depuis presque 40 années. Donc, nous avons des relations fortes et je suppose que maintenant, nous avons une occasion pour augmenter ces relations et de discuter comment est-ce que nous travaillons ensemble, d'un sens de programmation et aussi pour trouver les opportunités pour faire un dialogue avec les différents pays où les humains, les gens, n'importe quelle foi, ont été persécutés.
L'ambassadeur Andrew Bennett, directeur du Bureau canadien de la liberté de religion, interrogé par Laura Yerassi de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Au Nigeria, c'est avec une tristesse infinie que l'archevêque de Jos a commenté le double attentat spectaculaire de mardi soir qui a fait au moins 118 morts dans cette ville située à la charnière entre le sud chrétien et le nord majoritairement musulman. Selon lui, c'est un coup très dur porté aux nombreux efforts pour favoriser la coexistence pacifique et le respect entre tous les groupes ethniques, religieux et politiques. Monseigneur Kaigama pense que Boko Haram veut créer le chaos, le désastre national, pour attirer l'attention. Il est surpris que le gouvernement nigérian et les forces de sécurité n'aient pas été capables jusqu'ici de repérer et d'arrêter les responsables des violences en identifiant également leurs motivations politiques, sociales et religieuses. Nous sommes restés discrets pendant plus d'un mois depuis sa sortie, le 16 avril dernier, mais lorsqu'un film devient un vrai sujet de société, il requiert une attention qui dépasse celle des journalistes spécialisés. Il s'agit bien sûr de « Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu ?». Ce film français de Philippe de Chauvron, toujours en tête du box-office, a déjà dépassé les 7 millions de spectateurs. À Rome, nous ne l'avons pas encore vu, ses droits viennent d'être achetés en Italie, mais nous avons suivi les réactions qu'il suscite. L'histoire, vous la connaissez, le film met en scène un couple issu de la grande bourgeoisie catholique provinciale, plutôt vieille France, dont les filles ont choisi d'épouser un musulman, un juif et un chinois. Ce couple va voir sa quatrième fille épouser enfin un catholique, sauf qu'il est noir. À la fin, le film amène à comprendre que ce qui compte, c'est l'épanouissement personnel. Le triomphe populaire est tel que même des politiques ont pris parti. Jean-Baptiste Cocagne.
Pour les uns, ce film est révélateur du paradoxe des Français. Ils sont chauvins et conformistes, mais pas racistes et respectueux des valeurs républicaines. Le spectateur rit du miroir qu'on lui tend. Selon d'autres analystes, le film pourrait être interprété comme la métaphore d'une France vieillissante et rance qui aurait besoin des enfants de l'immigration pour se régénérer. Pour d'autres, réussir à faire rire de la mixité qui touche de plus en plus de familles en France, c'est salutaire. Quoi qu'il en soit, le regard que le film porte sur ses héros est toujours bienveillant. Les cathos eux-mêmes sont contents, trop heureux de ne pas être présentés comme les méchants français de souche de l'histoire, et dans ce sens, le film peut contribuer à désamorcer certaines crispations. Le psychanalyste Jacques Arène, enseignant à l'Institut catholique de Lille, va même plus loin. Cette comédie esquisse, d'après lui, un rêve de réconciliation autour de la liturgie familiale. Elle met en scène la force mythique de la famille, hétérosexuelle et sans recomposition, qui peut recréer le lien social et montre que le bordel identitaire de la société contemporaine peut être joyeux et ne court pas nécessairement vers la catastrophe. Pour l'évêque de Gap, Mgr Jean-Michel Di Falco, la sortie de ce film a été l'occasion de rappeler qu'il y a une contradiction entre christianisme et racisme. Quant aux jeunes du diocèse de Paris, ils en ont fait une parodie à l'occasion de la Journée mondiale des vocations. Leur message, inviter à revoir nos préjugés avec humour.
Et puis sachez que le pape François participera à la deuxième conférence internationale sur la nutrition qui se tiendra du 19 au 21 novembre au siège de la FAO, l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès des organismes des Nations Unies à Rome l'a confirmé ce mercredi. Organisée par la FAO avec l'Organisation Mondiale de la Santé, cette conférence rassemblera des chefs de gouvernement, autres décideurs de haut niveau et représentants des organisations intergouvernementales et de la société civile. L'objectif, passer en revue les progrès accomplis en matière de nutrition et chercher de nouveaux moyens d'intensifier les efforts déployés à l'échelle nationale et mondiale en vue d'améliorer l'alimentation et la santé. Selon la FAO, 842 millions de personnes souffrent de faim chronique et bien d'autres meurent ou sont victimes des conséquences d'une nutrition inadéquate. Près de 7 millions d'enfants décèdent chaque année avant d'atteindre leur 5e anniversaire et 162 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance alors que pendant ce temps, 500 millions de personnes sont obèses. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.